BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 10h pile, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts pour encore une demi-heure de débat et de controverse ensemble avec Marilyn Villard-Desbeaux, présidente fondatrice d'Origami & Co, Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes, et Jean-Charles Simon, président de Propriété et Liberté. On va revenir ensemble sur la note de conjoncture qui a été publiée hier soir par l'INSEE, cette note traditionnelle qui nous donne les prévisions à 6 mois. Alors, avec plutôt des... Bon, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein. C'est toujours pareil. Jean-Charles Simon, vous allez nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs.
Oui, c'est...
Une croissance revue à la baisse, mais quand même des signaux, moi, je trouve plutôt positifs. On va y venir après. Mais d'abord,
oui, ça aurait pu être pire. Déjà, ça aurait pu être pire. D'ailleurs, la Banque de France est plus pessimiste que l'INSEE. Hein, 0,5 versus 0,7. Donc, le 0,7, c'est pas si mal.
0,7% de croissance annuelle. Donc, c'est la prévision de l'INSEE pour 2026. Il y a deux jours, la Banque de France disait 0,5, effectivement.
Avec un deuxième trimestre qui serait à 0,3 et donc qui est assez dynamique.
Ça vous a surpris, ça?
Oui, ça m'a surpris parce qu'effectivement, la douche froide du premier trimestre laissait augurer avec un deuxième trimestre marqué par la guerre en Iran quelque chose d'assez négatif. Et puis, on voit qu'en effet, justement dans l'industrie, par exemple, les choses tiennent mieux. Il y a même des effets qu'évoque l'INSEE en termes de commerce extérieur. C'est que finalement, une partie du monde, notamment dans le Golfe, étant un peu paralysée, ça a été positif pour les industriels européens, dont les industriels français.
Donc ça va au-delà, hein, le commerce extérieur qui deviendrait le premier pilier de la croissance en France en 2026. Je n'ai entendu parler que de déficits commerciaux tout du long de ma carrière de journaliste. Entendre dire, Philippe Trénard, que le commerce extérieur va être notre premier pilier de la croissance, c'est quand même surprenant, non?
Absolument, ça montre au fond qu'on est dans une phase où il y a une fragmentation du monde, et nous on pense fragmentation du monde, on va plus échanger, mais le monde a été tellement mondialisé que bien évidemment il contourne cette fragmentation par des échanges qui se développent et dont nous avons bénéficié. Donc à ce stade, ce n'est pas éternel, hein. Ça c'est un peu conjoncturel.
Oui.
Nous avons bénéficié de cette fragmentation du monde telle qu'elle s'est développée aujourd'hui, comme vous l'avez souligné au Moyen-Orient. Et deuxièmement, il y a aussi cet effort de défense, cet effort que font de nombreux acteurs d'investir et de réviser d'abord les règles ESG qu'ils avaient dans leur entreprise, de surtout pas mettre un centime dans la défense, qui était bien évidemment une erreur. Et deuxièmement, de commencer à mettre de l'argent et à investir. On voit que la dynamique change. Alors, maintenant, les problèmes restent toujours présents. Ce qui a plombé au-delà du raisonnable industrie continue à la plomber en termes de fiscalité, notamment.
Oui, et de production qui pèse lourd.
Et deuxièmement, en même temps, je ne pense pas que notre production d'acier, etc., enfin, on ne fait plus d'acier, mais de tôle retravaillée, etc., doivent rester, d'une certaine façon, notre horizon et notre idéal de production. On a tous les défis liés aux nouvelles technologies, on a tous les défis liés à la génétique, on a tous les défis liés à l'intelligence artificielle, et honnêtement, on sort quand même de l'industrie traditionnelle, et c'est là que sont nos grands défis, et c'est là aussi qu'est notre avenir.
Avant de venir vers vous, Marilyn Villard-Desbeaux, pour parler pouvoir d'achat des Français qui va baisser encore une fois cette année, et ça c'est le côté négatif de la note de conjoncture, quand même, je voulais revenir sur ces chiffres de l'industrie avec vous, Jean-Charles Simon, 0,5% de hausse de la valeur ajoutée, le transport est le naval qui ont vu leur chiffre d'affaires croître de 20% en un an. C'est quand même absolument
Des grosses commandes.
La chimie qu'on disait absolument moribonde qui repart parce que les infrastructures ont été détruites au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça va nous dire de la croissance de demain?
Alors, ces chiffres, en partie, vous citiez le transport naval, attention, parce qu'il y a beaucoup là-dedans de grosses commandes. Alors, elles pèsent négativement quand il y a des reports, ce qui a été en partie le cas au premier trimestre, et puis elles pèsent positivement, hein, donc notamment les commandes d'Airbus.
Donc, c'est l'effet conjoncturel.
Les commandes d'Airbus, c'est un classique de la conjoncture. C'est un vrai effet, selon que vous le décaliez de trimestre sur l'autre, c'est un vrai effet quand il y a des grosses signatures, des grosses commandes, ça change évidemment la question des chiffres de la conjoncture sur ces deux secteurs industriels. Moi, ce qui m'importe effectivement le plus, vous le citiez, c'est cette affaire pouvoir d'achat et chômage, parce que c'est là où on voit que dans la note, pour moi, la note le plus intéressant, c'est les perspectives politiques qu'il y a derrière, c'est qu'en veille d'élection, vous allez vous retrouver avec une deuxième année où le pouvoir d'achat va baisser, et une année où le taux de chômage remonte. Et ça, on avait fait une étude il y a quelques temps là-dessus sur des dizaines de séquences électorales. En fait, la dynamique, la dérivée première de ces deux indicateurs, c'est très central dans les comportements des électeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs vont oublier un peu les niveaux, mais vont voir la dynamique récente sur les derniers mois et vont sanctionner plutôt le camp qui était en place pour choisir une alternative. Donc ça, c'est assez... je sors complètement de la partie analyse conjoncture économique, mais comme
non,
c'est
mais ça a des impacts politiques importants
de la note. La remontée à 8,4 du taux de chômage et la nouvelle dégradation du pouvoir d'achat par unité de consommation en 2026, c'est deux choses qui vont peser, je pense, sur la séquence électorale.
Maline Hilaire-Desbeaux, donc on le disait, hein, effectivement, je crois que la baisse était du pouvoir d'achat des Français de 0,8 en 2025. Elle serait encore de 0,7 cette année en 2026. Vous les côtoyez tous les jours, hein, oui. Des Français qui préparent leur retraite et vont les conseiller. Qu'est-ce que vous entendez ?
Oui, alors je voulais juste revenir sur, effectivement, voyons le verre à moitié plein pour ce taux, enfin, ces chiffres de l'INSEE. Soyons positifs. Toutefois, au quotidien, alors on a parlé de grands secteurs d'activité. Moi, je côtoie plutôt des TPE, PME, qui, je crois, couvrent majoritairement le territoire national en termes d'entreprise. C'est pas du tout ce qu'on ressent. On sent des entreprises quand même, ou des entrepreneurs, en difficulté, déployer beaucoup plus d'énergie pour arriver à peu près au même résultat. Oui. S'ils y arrivent. Voilà. Donc, ces chiffres-là sont...
C'est ça qui est intéressant, de confronter la macroéconomie et la réalité du terrain à chaque fois. C'est pas ce que vous voyez sur le terrain.
On le voit dans les chiffres des défaillances, malheureusement, qui sont colossaux.
Oui. Donc, beaucoup de...
Ceci étant, ils ne sont pas à des niveaux historiques. Ils remontent.
Ils sont remontés au-delà de l'avant-Covid. Quoi. Donc, on est quand même à...
Le quotidien du chef d'entreprise n'est vraiment pas facile pour conclure ses contrats, pour vendre... et on voit beaucoup licenciements, plans sociaux, des seniors qui se retrouvent donc à France Travail. Il y en a beaucoup. C'est la majorité, en tout cas, de nos clients salariés.
Et la hausse du coût de l'énergie, c'est là où on pensait, c'est là notre erreur de prévision. Nous pensions que la hausse du coût de l'énergie allait conduire forcément à un déclin industriel, et c'est pas tout à fait ce qu'on a vu.
Mais non, on voit qu'en fait, c'est les ménages qui vont payer la facture.
C'est les ménages qui vont payer la facture. D'ailleurs, comme aux États-Unis, ce sont les ménages qui ont payé la facture des droits de douane in fine, ou une partie les ménages et une autre partie les entreprises qui ont des marges.
Ça veut dire qu'il fallait protéger davantage les Français, Maline Hilaire-Desbeaux, et la même question à tous les trois.
Alors, si on parle des Français, ou en tout cas les salariés sont déjà beaucoup protégés, c'est peut-être pour ça qu'on manque de productivité au travail. Hein. Il y a beaucoup de protection des Français comparé à d'autres pays. Voilà, c'est très encadré. Le chef d'entreprise peut pas faire grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de lois. Voilà ce que je peux dire, moi, à ce sujet.
Et sur les carburants, prix des carburants, extrêmement ciblées. Ça n'a pas été 2022, on a sorti le carnet de chèques et le quoi qu'il en coûte à tous les étages.
Il faut arrêter de vivre dans un monde parallèle. Je veux bien qu'on fasse le quoi qu'il en coûte, et il est où, l'argent? Alors, il y a quelques vagues personnes, je ne sais pas, Piketty nous dit qu'il y a derrière la porte beaucoup d'argent et qu'on pourrait se servir là-dedans. Mm. Honnêtement, moi, je ne le vois pas. Je ne vois même pas la porte. Quant à la clé de la porte, je ne l'ai jamais vue. Non, honnêtement, il n'y a pas d'argent.
Gilbert Sept disait hier sur ce plateau que le bouclier énergétique avait quand même permis à la France d'avoir une inflation bien moindre que nos voisins européens, et que donc les salaires avaient moins augmenté et qu'on avait gagné 15 points de compétitivité en 5 ou 6 ans depuis le Covid. Alors, ça nous a coûté cher. Certes,
bien sûr, oui,
mais on redevient plus compétitif, et peut-être ce qui explique les chiffres du commerce extérieur plutôt positifs aussi.
À part qu'on ne sait pas comment gérer les finances publiques, la prochaine majorité, je ne sais pas quelle elle sera, et qui aura à gérer la dette publique et le déficit public, je ne sais pas ce qu'elle peut bien faire. Mmh. Et alors, le pire dans tout ça, c'est qu'on se trouve à peu près, j'allais dire, sur l'ensemble de l'échiquier, sur des personnes qui proposent des actuellement, en tous les cas dans l'état actuel de la concurrence électorale, qui proposent la distribution de pouvoir d'achat à partir d'un argent qui n'existe pas. Voilà. Donc là, pour ma part, c'est une très grave erreur, parce que forcément, quelque part, ceci ne peut conduire qu'à soit des réactions populistes extrêmement violentes, vous avez promis, j'ai pas,
C'est ce que laisse entendre Jean-Charles Simon.
Première solution. Et deuxième aspect, on va avoir les deux. Bien évidemment, un backlash au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de l'emploi ou au niveau des deux.
Oui, donc, c'est ce que prévoit un peu l'INSEE.
Ça se termine comme ça, après quelques heures d'euphorie.
Pour moi, c'est une faute lourde de la classe politique assez globale. Il n'y a pas eu beaucoup de voix dissonantes, parce que Bruno Le Maire a raison de rappeler que quand il faisait ses chèques, les gens lui ont demandé plus au Parlement. Donc, il n'y avait pas vraiment de voix de la raison. Ça a été une faute politique globale de laisser penser qu'en fait, c'est à l'État de préserver le pouvoir d'achat des Français. C'est-à-dire cette idée que c'est l'État qui doit donner de l'argent pour préserver le pouvoir d'achat des Français, qui est absurde en soi, parce que c'est l'argent des Français.
Oui.
Le truc n'est absolument pas raisonnable. Et dans d'autres pays, justement, les gens sont beaucoup plus acculturés à l'idée qu'il y a des chocs.
Il faut les encaisser, quoi.
Il faut les encaisser.
C'est vrai qu'on est très protégés.
Les ménages les encaissent. Et c'est la dynamique économique. Le fait que l'emploi va repartir, que du coup, les salaires vont remonter, que, les choses vont bien se passer. Donc là encore, c'est mettre dans l'action de l'État les meilleures conditions pour que l'activité reparte, que les gens embauchent, que les gens investissent. C'est donner ces conditions-là, c'est pas aller faire des chèques aux gens. Et c'est avec ces conditions-là, quand elles sont bien remplies, bien réussies, que en dépit d'aléas conjoncturels, on va avoir une progression du pouvoir d'achat sur la durée.
Et peut-être...
Vous dites, Marilyn, juste une seconde, assister.
Oui, mon avis, c'est que le français est très, très assisté, à tout niveau.
Et il est convaincu de ça.
C'est pas à l'État donner de l'argent pour aller faire le plein. Enfin, c'est le chat qui se mord la queue, si vous voulez. On s'en sortira jamais si on continue à prôner ce genre de décision.
Philippe Trenard.
Oui, je crois que une vraie politique sociale, c'est pas une politique sociale qui vit en état d'apesanteur dans le ciel, n'est-ce pas, et où on détermine des niveaux de vie, etc., qui sont sans rapport avec la réalité économique. La politique sociale, c'est le droit aux personnes qui ont une mauvaise santé, qui ont des problèmes extrêmement graves, de participer à la richesse sociale qui est créée. C'est pas le droit de s'en distinguer pour avoir un avenir brillant quand les actifs verraient bien évidemment leur pouvoir d'achat baisser. Si le pouvoir d'achat des actifs baisse, le pouvoir d'achat de l'ensemble des prestations sociales doit baisser avec celui des actifs. C'est un principe de base. Politique sociale, c'est une participation à la richesse de la nation.
Donc, si je vous demande à tous les trois si avec 59 000 emplois privés détruits, c'est la prévision de l'INSEE cette année, un chômage attendu à 8,4% en fin d'année et un investissement presque à l'arrêt, est-ce qu'il faut plutôt soutenir la demande et protéger ou accélérer les réformes de compétitivité?
Il faut évidemment accélérer les formes de compétitivité. Faire en sorte que justement créer de l'emploi, ce soit plus facile en France. On est encore très très loin. Très très loin. Je ne dis pas que Macron a rien fait. Il a fait des choses avec notamment les ordonnances Pénicaud de 2018, mais il faut aller beaucoup plus loin dans ce sens.
Et ce sera plus durable.
Et absolument. Et c'est ça qui va, de manière pérenne, recréer beaucoup plus d'emplois. Comment ça se fait qu'on a monté à au-delà de 8% de chômage alors qu'on est à 3 ou 4% dans des économies qui ont le même taux de croissance? Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet encore de marché du travail en France.
Gros sujet, oui.
La politique de la demande, c'est un feu de paille. C'est pour quelques mois. Ce dont on
un ralentissement de cycle comme ça, est-ce que c'est pas le moment? C'est ça,
est-ce que c'est
l'amortisseur qui est bien.
Est-ce que c'est un ralentissement de cycle de quelques mois? Si nous étions sur un ralentissement de cycle de quelques mois, et dans quelques mois, la productivité française, tout repart de plus belle, OK, je suis d'accord pour une politique keynésienne, une politique de soutien de la demande.
On n'est pas en crise.
C'est pas ça. À l'heure actuelle, notre problème, il est dans l'offre. C'est une production qui se traîne, non seulement une production qui se traîne, mais dont le trend a tendance à baisser, à tendre extrêmement dangereusement vers la stagnation, n'est-ce pas ? Et un pouvoir d'achat qui a plutôt tendance à baisser parce qu'à côté, la productivité a plutôt tendance à se ralentir, n'est-ce pas ? Donc, c'est bien cela qu'il faut changer. Il faut changer la dynamique et il faut donc poursuivre les réformes. On a fait des réformes, il faut aller plus loin.
Bon, voilà pour le message avant le dernier thème des débats des experts ce matin. Il est 10h passé de 14 minutes. Pour réagir, n'hésitez pas sur mon compte Twitter, @legendrat. Je voulais qu'on passe aux retraites pour terminer avec ce rapport de l'AFG, l'Association Française de Gestion Financière, qui a publié un livre blanc, c'est son rôle, donc c'est les professionnels de la gestion, elle le fait régulièrement. Là, sur la retraite par capitalisation, avec toujours cette même et grande question qui n'est pas simple, c'est comment gérer à la fois la transition de ce double modèle, c'est-à-dire qu'il faut continuer à payer une retraite par répartition, mais si on met en plus de la capitalisation, ça veut dire qu'on va devoir payer deux fois pour assurer sa retraite, c'est ça Marilyn ?
C'est ça, et c'est la question qui va payer du coup. Donc c'est vrai que la retraite, donc, ça s'anticipe pour tout un chacun, on le voit tous les jours.
Quels sont les bons conseils que vous pouvez nous donner, que vous donnez aux clients ?
C'est d'anticiper, d'anticiper, de ne pas attendre le dernier moment. Alors je parle des retraites par répartition. Oui. Bien entendu, l'épargne n'est pas mon propos, voilà. Mais les retraites par répartition...
Et ça veut dire quoi, anticiper sa retraite par répartition ? Parce qu'on paye finalement et puis on touche à la fin, on n'a pas trop le choix.
Eh ben non. Se pencher sur son dossier retraite, c'est pas prendre pour argent comptant votre relevé de carrière au dernier moment avec ce qui est écrit dessus.
Ah.
C'est déchiffrer, comprendre, vérifier, contrôler. Il y a des anomalies d'enregistrement, en moyenne 6 à 8 par carrière. Mmh. Ce sont les statistiques depuis une dizaine d'années sur les dossiers de nos clients. Et qui peut changer la donne. Du coup, sur mon âge du taux plein, par exemple, où j'ai le droit à une carrière longue.
Parce qu'il y a des oublis
Des oublis, parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'administration, les réformes, c'est un millefeuille de réformes, les retraites. Du coup, il y a des erreurs, des trimestres oubliés, des points oubliés, des périodes oubliées, ce qui remet en cause le montant affiché sur le relevé de carrière et où la date. Voilà. Et le dirigeant d'entreprise, il a la main sur sa retraite par répartition. Il peut décider de moins se rémunérer pour payer moins de cotisations. Quel est l'impact sur le montant de ses retraites à la fin ? Il épargnera par hasard, à côté s'il le souhaite. Il peut aussi changer de statut. Je parle bien du dirigeant, le salarié a la main. Il est salarié, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ça se prépare. Et puis, forcément, il y a une perte de revenus. Quoi qu'on en dise, qu'on fasse au mieux, qu'on récupère les erreurs, en moyenne, c'est 300 euros net par mois.
Hein. Ah
l'écart entre l'estimation de la caisse et la
ça
réalité.
Ça n'est pas rien.
Voilà. Et puis en plus, si vous imaginez qu'on a pu lui faire prendre sa retraite deux ans avant, je vous laisse multiplier. On perçoit sa retraite en moyenne 25 ans, si tout va bien. Du coup, il y a une perte de revenus, quoi qu'on fasse. Et évidemment, la perte est la plus énorme sont pour ceux qui gagnent 200 000, 300 000 euros par an. Effectivement, ils se retrouvent avec une retraite, s'ils ont cotisé au taquet toute leur vie, on peut être à 7, 8, 10, 12 000. Mais enfin bon, entre 300 000 par an et 12 000 par mois, il y a quand même une baisse... Donc la retraite coûte cher, évidemment on le sait, je ne vais pas revenir sur les chiffres que tout le monde a vus.
Il y a de moins en moins de cotisants par pensionné,
par
actif, forcément.
Exactement. C'est dans les tuyaux depuis un moment la retraite par capitalisation.
Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de la faire avec le PER qui a été lancé en 2019, 15 millions aujourd'hui je ne sais plus si c'est de PER ou de français.
Oui, de PER, alors un peu, mais c'est quand même de
donc
l'épargne.
Donc elle est en train d'être mise.
C'est quand même de l'épargne.
C'est le concept de la retraite par capitalisation.
Stock, hein, c'est 150 milliards de stock, le PER. C'est très bien, c'est super.
Oui.
L'outil est bien, il ne faut plus trop y toucher. C'est surtout pas le défaire fiscalement. Donc ça, c'est un bon outil, mais c'est un outil complémentaire du système. Le problème, c'est que ça ne change rien à l'équation globale macroéconomique du système de retraite.
Oui.
Le cœur de l'équation...
C'est un signe que les Français croient de moins en moins à leur retraite par répartition.
Le cœur de l'équation, le corps l'a redit récemment. C'est pas tellement d'ailleurs les déficits, parce que les déficits, là-dedans, il y a plein de conventions entre les subventions de l'État, les taux d'équilibre, etc. Tout ça est d'un intérêt second. Ce qui compte, c'est la part des retraites obligatoires dans le PIB, parce que c'est ce que payent de toute façon les contribuables, que ce soit par des cotisations, de l'impôt ou de la dette. Et ça, ce que nous dit le corps, c'est que ça va remonter à plus de 15% du PIB, on est à 14,1, ça va remonter à plus de
15%
du PIB.
Alors qu'on est à 14 et qu'on a déjà 2 points de PIB de plus, c'est-à-dire 60 milliards de coûts supplémentaires par rapport à la moyenne européenne.
Alors la bonne solution, moi ça fait plus de 25 ans que je milite pour ce que l'AFG a sorti hier.
Je
suis particulièrement heureux qu'une institution qui est dans l'univers MEDEF, qui est dans des gens qui ont un rôle dans la gestion du système global des retraites français, prend ce parti de défendre la réforme qu'on appelle un peu à la suédoise, c'est-à-dire qu'on dit on va transformer une partie des cotisations en répartition actuelle, existante, en cotisation capitalisation. Pourquoi ? Parce qu'on veut pas augmenter le taux d'effort des salariés qui est déjà beaucoup trop élevé.
Et oui, c'est
par
plus du
pays.
Quart de la fiche de paie, hein, 28%
du salaire brut entre la part patronale et salariale. On est déjà au-delà de ce qui est raisonnable.
Et donc, des entrepreneurs.
Par patronale et salariale. Par patronale est prédominante.
C'est ça.
Tout ça est beaucoup trop lourd déjà, pèse sur la compétitivité et pèse sur le pouvoir d'achat. Donc il faut faire moins ou en tout cas pas faire plus. Alors pour faire autant en introduisant de la capitalisation capitalisation, qui est une solution pour ne pas arriver au fameux 15,3% de PIB en 2070, oui. puisque vous allez faire baisser les droits à la répartition et donc les pensions qui seront versées dans quelques décennies. Il faut introduire de la capitalisation. Même si on est un grand adversaire de la capitalisation, comme le sont certains économistes du débat
public. C'est moins un gros mot qu'avant, moi, j'ai l'impression.
Ben ça y est, c'est rentré.
C'est rentré dans les...
Maintenant, vous avez les candidats du Bloc central. Il y a un vrai changement des mentalités. C'est la première fois que je vois une élection présidentielle. Vous avez plusieurs candidats crédibles qui portent le sujet de la capitalisation. Oui. Et donc, ce que dit l'AFG, elle donne la méthode qui me semble la bonne méthode pour faire, c'est donc de dire... On n'augmente pas le taux de cotisation global, mais on a quelques points qui deviennent des points de capitalisation. Comment on finance la transition?
Parce que comment on paye nos retraites si on enlève
les... Comment on fait en sorte que les régimes de retraite, en plus, ils font la bonne solution qui est de dire que ça doit se faire à l'intérieur du régime AGIRC-ARRCO. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la bonne solution, c'est de faire ça dans ce régime-là.
Est-ce qu'ils seront d'accord?
L'FG est une partie prenante puisqu'elle est du côté du patronat qui co-gère le AGIRC-ARRCO. Alors après, comment on fait pour que l'AGIRC-ARRCO ait les recettes pour gérer la transition des quelques décennies pendant lesquelles le système ne sera pas encore arrivé à régime permanent. Il faut trouver des recettes exceptionnelles. Alors c'est là où je trouve que le rapport de l'AFG manque peut-être un peu d'ambition. Il dit il y a des recettes comme le patrimoine immobilier de l'État, comme les dividendes des participations de l'État. Mais les dividendes des participations de l'État, ils viennent déjà réduire le déficit public. Donc c'est pas forcément une recette réemployable. Oui. Moi, je propose une solution. Je l'ai dit dans un autre journal économique. C'est d'utiliser une ressource qu'ont justement les partenaires sociaux sous la main, qui est leur parc de logement social. Ils ont un parc de logements social de plus d'un million de logements. On pourrait imaginer que le pôle Caisse des dépôts, qui a à peu près la même chose, mette aussi ça en contribution, et qu'on fasse comme dans d'autres pays, l'Allemagne notamment l'a fait, c'est-à-dire qu'on vend par lot ces logements sociaux, on ne change pas la nature, mais on a du coup des recettes one-shot en centaines de milliards. Et ces recettes-là sont des recettes idéales pour ne léser personne, ne pas faire porter un effort supplémentaire sur les actifs pour pas qu'ils payent deux fois, ne pas faire d'autres trous supplémentaires dans les finances publiques et financer cette transition sur qui est une transition d'une quarantaine d'années en sifflet, le temps de monter en puissance.
Donc
avec
on
la
vend
capitalisation.
Le et là, on a logement social à des bailleurs privés,
mais qui ont un cahier des charges pour rester de nature
rester
sociale.
Rester dans le social, évidemment, mais pas les locataires dehors.
Oui, il faut imaginer que c'est comme une concession d'autoroute aujourd'hui.
Une grande transmission du logement social. Exactement. Des partenaires sociaux vers le parc.
L'exemple, c'est les concessions d'autoroute. Regardez les concessionnaires d'autoroute, ils n'ont pas la main sur la politique tarifaire des péages, mais ils essaient de faire leur profit parce qu'ils gèrent mieux que ne le ferait un opérateur public. C'est ça le pari, ça permet d'avoir
ça. Et alors
ça,
vous dégagez combien avec ça?
Des centaines de milliards. Ça dépend de l'ampleur du parc.
Parce qu'on sait qu'il faut 2 à 300 milliards minimum pour commencer
le parc Action Logement, c'est un peu plus de 100 milliards.
De Thatcher.
Le parc CDC Habitat, c'est à peu près autant. Et vous pouvez aussi mettre sur le marché les institutions de prévoyance que gèrent les partenaires sociaux. Tout ça, ça fait largement les 250 milliards qu'il faut pour la transition. Et vous n'avez surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez lésé personne et bénéfice au passage additionnel, vous avez probablement des logements sociaux qui seront mieux gérés et plus propres qu'aujourd'hui.
Et des DMTO, des droits de mutation titre onéreux qui rempliront les caisses des collectivités locales.
C'est vraiment une solution à étudier, et notamment pour le logement social lui-même, parce qu'aujourd'hui c'est une catastrophe. Mais juste 3 remarques. Première, ce que disait madame, les erreurs. Moi, j'ai découvert que fonctionnaire d'administration centrale, n'est-ce pas, du ministère des Finances, n'est-ce pas, j'avais 20 ans de carrière dans le secteur public, il y en avait 15 qui ont disparu. Donc, c'était 5.
C'est
voilà,
courant.
Je vous donne les erreurs. Et ce n'est pas en 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines, vous trouvez pas une administration.
Ça paraît absolument incroyable, Philippe Trénard.
Et vous trouvez face à une administration qui vous dit, mais mon monsieur
fonctionnaire
Trénard,
du ministère des Finances,
tentez,
c'est quand même cocasse.
Vous êtes corrompu, vous tentez de nous corrompre, vous n'avez jamais fait 20 ans dans
vous
le
n'avez jamais
public. Même le brave Jean-Charles sait que vous trouvez dans des situations absurdes.
Ubesque.
Deuxièmement, pourquoi faire de la capitalisation? Parce que quand même, revenons un tout petit peu. C'est très simple. La classe moyenne n'aura pas sa retraite. Parce que comment on va payer ces retraites qui coûtent très cher? Ça va être très simple. On va prendre le système beveridgien et on va dire aux gens, on vous paye juste une retraite minimum, une retraite de smicard. Voilà. Le français, c'est de la... en plus, c'est très beau.
Vous faites partie de ceux qui disent que les jeunes n'auront pas de retraite
non,
demain,
ils auront la retraite minimum. C'est très beau. Généralement,
très
ils font don de leur retraite au reste aux Français les plus pauvres et eux accepteront une retraite à 1200 euros, etc. Donc, si la classe moyenne ne met pas de l'argent l'argent de côté, je vois pas très bien quelle retraite elle va avoir. Donc il faut qu'elle fasse la retraite capée par capitalisation, car de toute façon, que oui ou non la transition se passe bien ou se passe mal, de toute façon on voit très bien que la classe politique, elle va aller directement vers le fait de raboter les retraites pour les faire descendre vers leur minimum, ce qui in fine n'aura plus aucun intérêt. Alors, deuxièmement, si nous faisons de la retraite par capitalisation, d'abord, on a au fond ce rêve un petit peu qui était celui de Macron, de la retraite par points, c'est-à-dire une retraite un peu individualisée. Vous avez in fine un petit peu ce qui correspond à votre effort. Et deuxièmement, si nous associons cela, mais si nous ne le faisons pas tout seul, à des réformes structurelles dont nous avons parlé, c'est-à-dire que nous allons faire des gains de productivité, nous allons générer une épargne qui va s'investir dans l'hypothèque.
Oui, c'est le sujet de l'investissement long aussi,
bien
sûr.
Je ne dis pas que ça va couvrir tout le coût de la transition, mais ça va en couvrir une partie. Et qu'après ça, il faudra aller chercher des solutions comme celles que propose Jean-Charles, éventuellement peut-être de travailler plus. C'est vrai que certains parlent de baisser l'âge de la retraite.
Vous dites un gros mot,
la
fille.
Votre durée de vie s'allonge, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas assez de jeunes. Il est clair qu'il faut probable, et que nous vieillissons en bonne santé. C'est vrai qu'en profiter pour faire le tour de monde et d'aller voir les phoques dans l'Antarctique, c'est très sympa, mais on peut aussi créer des richesses. Entre nous, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, le petit problème, il y a quand même un aléa moral là-dedans, c'est que plus vous allez mettre de l'argent dans la répartition, plus l'État va dire, je peux aller plus vite vers la retraite minimale. C'est un système au fond de CNAV qui est juste un vaste système, une pompe à redistribution, et surtout pas un système d'assurance. Dernier point, on a quand même un petit problème avec les PER, c'est quand vous parlez un produit d'assurance vie et un produit de PER, la fiscalité est telle que quand même le rendement au bout de 20 ans de votre PER, il est 20% plus bas que celui d'un produit d'assurance vie. Donc là, faut repenser...
L'écart est aussi important que ça.
Alors, c'est le calcul brutal. Après ça, vous pouvez faire des modalités un petit peu plus sophistiquées. Ça veut dire que le produit d'assurance retraite doit être pensé et repensé fiscalement. Ce qui existe aujourd'hui est de loin largement insuffisant. Qu'on le compare à l'assurance vie, je ne parle pas naturellement de le comparer aux cotisations sociales.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Marilyn Villard-Desbeaux, présidente fondatrice d'Origami & Co, Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes, et Jean-Charles Simon, président de Propriété et Liberté. Cette émission est disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business.